Alors, bonjour, je suis avec Marc, auteur, compositeur, interprète. Marc, merci d'avoir accepté cette petite interview.
Pas de problème, salut Piouf.
Alors, je vais faire un petit résumé de ta carrière pour les auditeurs. N'hésite pas à m'interrompre pour à me corriger ou à me compléter, si je dis des conneries. En 2006, tu crées le groupe Cocoon avec Morgane Imbeau.
Ouais.
Un groupe de pop folk dans lequel tu es en charge de l'écriture, de la composition, du chant et des guitares.
Voilà, tout à fait. Puis de... en fait, à la base, Cocoon, j'étais tout seul. C'était, et j'avais peur de lancer, ce projet tout seul. J'avais pas confiance en moi. Et, donc, j'ai commencé à chercher quelqu'un pour m'accompagner. Déjà, la première motivation d'être deux, c'était ça, c'est de pas être seul. Et puis, je me suis dit aussi qu'un duo fille-garçon, ça serait sympa. Donc, j'ai cherché une fille. J'ai trouvé Morgane qui avait la chance, contrairement à moi, d'être pianiste. Et on avait besoin de quelques petites notes comme ça. Et elle pouvait jouer ce que je lui demandais, etc. Et puis, au fur et à mesure, elle est devenue investie... disons qu'elle arrangeait un peu mes chansons, quoi, et du coup, c'est vrai que ça est devenu un vrai groupe, quoi, un vrai duo.
Bien complémentaire.
Voilà, tout à fait. 2006, c'est ça.
Vous avez percé grâce à des tremplins musicaux au début, surtout Printemps de Bourges, Eurocaine, tout ça. Et puis après, vous signez Les Inrocks. Et après, vous signez avec le label Sober and Gentle.
Sober and Gentle, tout à fait. Tout ça, ça se fait un peu au même moment. On a même signé avant tout ça, je crois. Où on a gagné Les Inrocks en premier, puis on a gagné tout le reste et on a signé dans la foulée. Et puis, de toute façon, je pense qu'on faisait une musique qui était... qui demandait qu'à être écouté. Enfin, on faisait une musique assez simple et assez populaire. Enfin, ça sentait que ça allait être facile, c'était des mélodies faciles, mais je sentais pas que ça allait être ce succès-là, quoi. Mais en tout cas, on sentait qu'il y avait un public, quoi, que on nous parlait beaucoup sur Internet. Nous, on a été découvert grâce à MySpace par notre label.
D'accord.
Il y avait encore MySpace à l'époque.
D'accord. Donc c'est plus via MySpace au final que
c'est
via
MySpace, ouais, le premier
succès.
Moi, je suis un gros geek à la base. C'est moi qui je passais des nuits sur MySpace, sur. J'ai rencontré Morgane grâce à un site internet aussi qui s'appelait, je ne me souviens plus, un site régional, un truc .net bizarre. Mais en tout cas, voilà, MySpace, ça a été le début de tout, exactement. C'est là que mon label, Stéphane Gilles, qui m'a signé, et après qui a signé le groupe Cocoon, a pris connexion avec le groupe déjà direct. Donc ça a été le premier manager MySpace finalement, le premier contact entre nous et le monde.
Donc pour toi, il n'y a pas eu de difficulté importante au début à trouver un label, et c'est même eux qui sont venus plutôt vers toi ou...
La grosse chance de Cocoon, ça a été ça, ça a été qu'il y a eu normalement un groupe, certains groupes comme par exemple, je ne sais pas, des groupes populaires comme Noir Désir ou Trio, ou des groupes très populaires de... très français, quoi. Des fois galère pendant 5-6 ans avant d'avoir un... Nous, on a galéré un an finalement, et puis galéré, franchement, les parents nous aidaient, on était
jeune,
on était... Moi, j'ai été signé, j'avais 18 ans, tu vois, là j'ai 28 ans. J'ai pas vu de moment de, pour l'instant, de bas dans ma carrière. Ça va peut-être venir, j'espère pas, mais en tout cas ça a été tout de suite assez facile, et les groupes nous disaient, putain, ça va vite pour vous, c'est vrai qu'à 18 ans sortir un disque, c'était rapide, ouais.
Et le premier contact avec les labels, ça s'est passé comment? C'était plutôt
la première fois, c'était
surprenant, cordial, les le type de personnes que tu as rencontrées
On n'a pas eu 12 000 propositions parce que moi, je voulais signer très vite. Donc, on aurait pu attendre un peu, faire monter les enchères. En même temps, je sais que le contexte musical, en tout cas politico-musical du moment, c'était pas du tout à la chanson en anglais en France. C'était l'inverse en 2005. C'était encore la chanson française à fond, chanter en français, etc. Le premier contact de label, c'était avec une personne que je nommerai pas, parce que j'ai pas envie, c'est un mec gentil, tu vois, mais qui disait vous allez être les prochains Raphaël, etc. Du coup, là on vient d'entendre un petit extrait de...
du futur,
du futur disque, parce que là on est en studio.
Exclusivité.
Donc bref, un mec un peu à la fois requin et qui s'en foutait un peu. Moi je disais non, je veux chanter en anglais, je veux chanter en anglais. Mais il disait les radios vont pas vous jouer. Et c'est vrai qu'on a été dans cette vague de groupes français qui a permis de décoincer un peu le truc, avec Yael Naïm, avec The Do, Moriarty, tous ces groupes qui sont sortis la même année, et qui ont permis aussi les radios ont cru en nous, quoi.
Et donc le label, a priori, a essayé de
réorienter.
Essayé
de réorienter, exactement. Il a pas essayé longtemps, de toute façon on a dit non. Et puis après, on a eu ce petit label, Sober and Gentle, un label avec un employé à l'époque, dans un petit appart, une petite maison parisienne, dans le 18e, un mec assez habile, et très convaincant, et très gentil, et très drôle. Enfin, pas gentil, c'est pas le mot, mais en tout cas, on sentait qu'il allait être fort, et que... qui avait l'air parfait pour nous, parce qu'il nous a demandé... Puis moi, je voulais signer en indépendant, quoi. C'était l'idée. je voulais pas être chez une major tout de suite.
Alors que j'explique ce que c'est signé en indépendant, parce que c'est pas
un label indépendant, c'est un label qui n'est pas affilié à une major compagnie. C'est-à-dire aujourd'hui en France, il reste trois majors qui sont Warner, Universal et EMI, je crois.
EMI a été racheté par.
EMI est racheté par Universal. Sony, voilà. Et voilà, qui sont donc indépendantes, c'est-à-dire qui sont libres de toute contrainte avec. Avec ces majors, donc du coup t'es libre pour ton image, t'es libre d'avoir le final cut sur ta musique pour plein de choses, alors que c'est une légende, parce qu'aujourd'hui je suis en major et je suis quand même complètement libre aussi.
Ouais, mais c'est peut-être parce que maintenant t'as plus de succès et résultats.
Mais pour un premier album, c'était très bien de le faire chez lui.
Voilà.
Et c'était d'ailleurs preuve, je pense qu'on n'aurait pas vendu 150 000 disques chez une major parce qu'ils auraient peut-être moins travaillé le projet. Ça a été très bien de le faire en indépendant parce qu'on a pris un an et demi à le travailler et à se battre, quoi, vraiment. Ça a été génial. En même temps, c'était très familial. On dormait chez lui. C'était des moments. Moi, je pourrais plus les vivre aujourd'hui parce que c'est trop roots.
Mmh.
Mes goûts ont évolué, mes envies ont évolué en tant que musicien. Je préfère le confort aujourd'hui que m'apporte Barclay parce que aujourd'hui, ma carrière, disons que je fais des disques, quoi. J'ai besoin d'en faire, etc. Et j'ai plus envie de cette incertitude. C'est ça le problème. Voilà. Le seul gros désavantage d'un label indépendant, c'est l'incertitude un peu financière. Et alors qu'une major comme Barclay, ben tout de suite, quand même
il y a une force derrière qui te permet de.
Bah, ils sont pas non plus, voilà, ils vont pas te garder à vie si tu vends pas de disque, ils te virent. D'ailleurs, on a entendu parler de labels qui viraient les artistes, mais en tout cas, ce qui est agréable, c'est qu'ils mettent plus de moyens pour que ta musique soit écoutée par ton public, en tout cas la cible que ta musique vise. Enfin, et en même temps, ils parlent plus de toi comme un produit. Tu sens que t'es plus un projet. Alors ça aussi, ça a été étrange au début, mais je m'y suis bien fait.
Mais au final, le bénéfice est positif, c'est-à-dire que chacun, c'est du win-win. Toi, ça te permet d'avoir plus de confort et plus de visibilité, et en même temps, ils sont sur un artiste qui est plus... Et le changement de label, ça s'est fait pour quel...
Le label Sober & Gentle, on a vendu beaucoup de disques, et nous, on avait besoin, pour sortir le deuxième album, d'un peu plus de moyens que lui n'avait pas. Tu vois, il fallait tout de suite des choses qu'on n'aurait même pas pensé avant, mais par exemple, une pub télé. Ça coûte trop cher. Ou par exemple, et même lui, il a dit, bon, écoutez, je préfère céder un petit peu de mes droits. Ça s'appelle une licence. C'est-à-dire qu'on était toujours chez lui, mais on était aussi un peu chez Universal. Ou on était un peu chez lui, mais beaucoup chez Universal. Chez Barclay. Parce qu'Universal regroupe plusieurs labels. Universal est une major qui regroupe, par exemple, Mercury, ULM, AZ et Barclay, ou aussi Motown France.
Avant d'aller plus loin sur les raisons qui t'ont fait changer de label, etc., déjà, on peut continuer
repartir
un peu sur
le
contexte. Donc, après Arsini, tu sors... Vous sortez plusieurs extended play qui sont en fait des sortes de mini-albums, c'est ça ?
Des EP, exactement.
Des EP.
On sort un petit EP qui est d'abord financé par la région parce qu'on on a gagné un petit concours régional qui nous permettait d'enregistrer dans un premier contact avec le studio professionnel. Donc en 2006, un petit EP qui nous a servi d'ailleurs, c'est lui qui nous a fait gagner des petits tremplins. Parce que c'est cet EP-là qu'on a envoyé d'ailleurs aux maisons de disques, enfin aux trois maisons de disques qu'on voulait contacter. Qui nous ont refusé d'ailleurs. Et c'est celui-là qu'on a vendu au concert, au premier concert dans les bars, quoi. Première partie. Et après, on est arrivé chez Sober & Gentle, donc chez Stéphane Gilles, dans le petit label, micro-label, qui avait autant de moyens que nous, mais enfin un petit peu plus, mais voilà.
Plus d'expérience.
Ouais, et puis lui, il venait d'une major. Il l'avait quitté pour différents points de vue sur la musique, quoi, justement. C'est ça qu'on avait aimé chez lui. Moi, j'étais très, très dans la musique indé. J'écoutais des choses très obscures. Et j'aimais ça. J'avais besoin de me rapprocher de ça. Donc, bref, il nous dit, on va refaire un petit EP. Puis je me souviens, à l'époque, il avait dit, on fera même un vinyle. Enfin, ça me plaisait, toutes ces choses, ces petits objets, etc. Aujourd'hui, un vinyle, bien sûr, pas de problème. Mais c'est plus du tout une priorité, quoi. Les points de vue évoluent, de toute façon. Et donc, il nous paye ce petit EP... 5 titres qui nous permet d'aller encore plus faire de concerts. On avait déjà une structure qui nous faisait faire des concerts, qui s'appelle un tourneur, une petite structure régionale avec qui on a rapidement arrêté parce qu'ils n'avaient pas les épaules, parce que le groupe a grossi très vite au niveau du live, en fait. On a commencé à remplir très vite des salles de 800, 1000, 1500 personnes, ce qui était trop gros pour eux, pour assurer, parce qu'il fallait investir. Louer une salle, ça coûte cher, enfin bref. Et donc du coup, on a dû aller
la trésorerie pour s'occuper de tout ça, quoi.
Ouais, il fallait ça, et puis ça nous a fendu le cœur, mais on a dû... ça s'est très bien fini, d'ailleurs. C'est une structure de Clermont, quoi, de là où on était, mais voilà, on a dit, on part. On est allé chez Corrida, qui est toujours mon tourneur aujourd'hui, et le tourneur de Morgane et de Cocoon. Donc ça, c'est une structure super corrida qui fait tourner des groupes énormes, genre Radiohead, Phoenix, Ben Harper. Donc voilà, et nous, là, on a trouvé une vraie assise aussi financière. Finalement, l'argent régit vachement ce métier, quoi. De toute façon, pour avoir les moyens de faire artistiquement, d'être libre, il faut un peu d'argent. Donc, alors après, il y a des artistes qui sont complètement... Ils ne veulent pas jouer avec ça, avec l'argent, etc. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, quoi. Nous, on a fait le choix. Je pense qu'on a fait les bons choix. Donc en tout cas, voilà, on sort un EP en 2007, en avril 2007, je crois, et l'album sort... Un EP, en général, précède un album, permet d'avoir déjà un morceau qui passe en radio. On a eu tout de suite un morceau qui s'appelle On My Way, qui a été le premier single qui est rentré sur France Inter. Ça, c'était la consécration.
La consécration. Même parce que... contente, France Inter.
Ouais, et France Inter, il y a un truc symbolique en France. En France, France Inter, c'est ultra symbolique pour un artiste, parce que pour plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est France Inter, quand même. C'est la plus, radio, la plus belle radio du service public, pour moi. Enfin, en tout cas, dans les radios généralistes. Et puis... ça ouvre, en tout cas, après, c'est très, très leader d'opinion. C'est-à-dire qu'après, les autres radios te rentrent plus facilement, si tu es sûr.
Ouais, ils font une découverte importante, la programmation est assez géniale.
Ouais.
Donc ça, et là, premier album.
Premier album sort. Et là...
My Friends All Died in a Plane Crash 2007.
Et là, le marché du disque à ce moment-là, parce que je pense que c'est un peu de là-dessus qu'on va parler, n'est pas encore ultra... c'est la loose. Par rapport, attention, pas la loose dans l'absolu, mais la loose par rapport à...
L'âge d'or.
L'âge d'or, même de 5 ans avant. Disons qu'en 2002, je crois que c'est le début de la crise, ils avaient déjà perdu, je crois, 30 ou 40% du chiffre de 5 ans avant. Mais nous, on a débuté par ça, donc on était là, bon...
Vous êtes nés dans la crise.
On est complètement des enfants de la crise. Je me rends compte que, pour l'instant, on l'a jamais trop subi, parce qu'on a toujours été un groupe qui a vendu, des disques. On a eu de la chance, c'est que notre public achète des disques. Ce qui n'est pas le cas de certains groupes, où les groupes... Donc le téléchargement, on peut en parler si c'est maintenant que tu veux en parler. En tout cas, le My Friends All Died sort, on en vend très peu. C'était un album attendu, mais on en vend, tu sais, c'était très un rock, Télérama, Libé. Donc c'est pas des petits journaux qui font vendre des disques, c'est des journaux qui font avoir d'autres journaux. Donc, et qui font peut-être... Les radios est arrivé genre 6 à 7 mois avant la sortie de après la sortie de l'album. Je veux dire les radios de réseau, c'est-à-dire Virgin Radio, des choses comme ça qui, elles, vraiment, ta vie change. Tu rentres sur Virgin Radio, on a senti que notre vie avait changé.
D'accord, d'un côté, il y a les leaders d'opinion.
Qui font pas vendre de disques. Et de France côté, Inter, ce n'est pas vendre de disques. Ouais. Hein. Mais ça peut faire partie du processus qui va faire vendre des disques, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, Virgin Radio, direct, ta vie change. Les salles sont blindées à l'avance. Ta vie change. Alors ça dépend, il y a des groupes qui passent sur Virgin Radio, qui c'est la loose et tout, ça marche pas. Mais nous, ça a été un vrai déclencheur. Et parallèlement à ça, on a commencé à faire de la télé aussi. Premier Taratata, par exemple. Bam, déclencheur. Même si, par exemple, Taratata, ça fait pas vendre des milliards de disques, ça en fait vendre un petit peu. Et dans le même mois, si tu fais un grand journal, Ruquier, on a même fait Drucker, Vivement Dimanche, et le Taratata, on en a fait genre 4 en 3 mois. Et là, nos ventes ont fait plus, j'en sais rien. Puis on s'en foutait, moi, je voulais juste faire des concerts. Mais avec le recul, c'est vrai que nos ventes ont fait plus 500%, quoi. Et là, on est arrivé à, assez rapidement à 50 000 ventes. À l'époque, même quand on est sorti ce disque, c'était 75 000 le disque d'or. On a été disque d'or au bout d'un an, avec un travail de fourmi. Donc 75 000 ventes en un an, ça fait pas fou. Ça fait 10 000 par mois, même pas 5 000 par mois. Mais quand même, c'était super pour un label indépendant. C'était la fête, quoi. C'était la fête grave. Après, bon, bah, 75 000 ventes, tu vis pas longtemps avec ces 75 000 ventes, parce que les royalties, c'est très peu pour un premier album, etc. Tu vis un an et demi, quoi. Tu vides suffisamment pour aller faire le deuxième album.
Mmh. Ouais, c'est plus un tremplin pour le deuxième.
Et on a senti, il y a des études qui ont fait que, à l'arrivée, on arrivait à 150 sur ce disque en deux ans.
Disque de platine, donc.
Ouais, disque de platine. Et on s'est rendu compte qu'avec le téléchargement, sans le téléchargement, on aurait vendu 400, 500 000, tu vois. Donc il y avait vraiment un manque à gagner quand même.
Ouais, mais ça, tu l'imagines ou tu
non,
le calcules
comment ? Non, pas du tout, non, mais au contraire...
Tu te bases sur...
Mais je disais aux gens, mais je veux pas du tout être celui qui va dire ne nous téléchargez pas. Je déteste là, ces grands de la variété là, qui se mettent en avant aujourd'hui en disant maintenant qu'ils l'ont fait il y a 3-4 ans et qui ont vite vu que c'était une connerie de politique.
Ah là, il y a un retournement politique fort sur le sujet.
Ah ouais. Des gens, genre, tu sais, des Obispo, des gens comme ça qui... ont paniqué, quoi, je pense, et qui avaient pas cette habitude-là. Eux, ils étaient dans un truc...
Ouais, un âge d'or, hein. Je pense que dans pas mal de métiers, ça arrivait.
Puis même, surtout l'âge d'or de la variété aussi, leur musique. Nous, ça a été l'âge d'or de la musique folk aussi. C'est terminé.
Ils ont subi à la fois le retour de la variété.
Surtout la position qu'ils ont prise en engueulant les gens.
T'es totalement contre-productive, en plus.
Mais non, mais je pense qu'il le pensait vraiment. Moi, je voulais surtout pas... J'avais même pas envie de les engueuler, au fond. Je me disais juste, putain, mais moi, je le faisais à la maison. Mm. Je faisais partie... J'ai 28 ans, là, aujourd'hui. Donc, je le faisais à 20 ans. Je téléchargeais comme un porc. Pas comme un porc. Mais disons que je voulais un disque. Maintenant, j'achète sur iTunes parce que, bah, maintenant... J'achète plus de disques en tout cas. J'achetais des disques encore, mais je téléchargeais des fois parce que c'est pas des disques que j'aurais acheté de toute façon. Voilà. Et je pense que ceux qui ont téléchargé Cocoon, ils l'auraient peut-être pas acheté forcément. J'y crois pas à ça. Si jamais tu veux vraiment un disque, tu l'achètes. Tu soutiens le groupe. Si jamais vraiment tu aimes le groupe, enfin. Et puis franchement, j'ai pas gagné ma vie grâce aux ventes de disques. Je dis pas qu'il faut pas en vendre, au contraire, j'aimerais trop en vendre. Ça serait super. Enfin, en plus, professionnellement, c'est super agréable de vendre le fruit de ton travail. Mais je comprends que cet objet, en plus... Il y avait plein de trucs que je détestais, c'était l'objet.
C'est marrant, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je suis totalement... Il est antipathique, total. Il est non pratique. Il est...
Donc, nous, on
décidé... d'un artiste, c'est assez rare d'entendre ça.
Non, l'objet est horrible. Le CD, il se pète, le cristal, le boîtier cristal, là, pas pratique. C'était complètement mort d'avance, ce truc, avec l'arrivée du numérique. Et en même temps, on a tout de suite essayé de le contourner avec Cocoon. On s'est dit, bon, on n'aime pas l'objet, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a envie de vendre notre musique, quand même. Donc, on a fait un petit livre avec dedans des Polaroids. On a essayé de faire une édition limitée, un peu jolie, mais un livre. Moi, j'adore les livres.
De rendre l'objet un peu plus...
Surtout, on a voulu concevoir chaque disque comme un livre. Et d'ailleurs, bah, ça a été payant. Parce que ce livre s'est vendu super. Et nous, du coup, ça nous a fait... d'une part, c'était bon pour notre image, j'imagine. Et puis surtout, c'était bon pour artistiquement. C'était complètement... c'était complètement cohérent, quoi, avec la démarche de Cocoon, c'est-à-dire un groupe qui fait des choses à la main. En tout cas, on a sorti, donc, je te dis, ce livre, édition limitée, à peu d'exemplaires, qui a été vraiment cohérent artistiquement. Ça a été super. Après les concerts, le public a suivi. Et puis, ça a été payant, quoi, voilà. C'était cool.
Tu disais que tu vivais pas du CD, donc non. C'est plutôt de la scène. Ou
non.
C'était...
Non, la scène, c'est
des
pas...
droits
c'est...
de diffusion ouais, c'est radio,
c'est 80% de mon revenu, même encore aujourd'hui, c'est les musiques de films, de pubs.
Ouais, parce que vous avez été beaucoup plébiscité par la pub.
Ça a été la diffusion radio, on a été diffusé à mort, et vu que je suis auteur, compositeur dans Cocoon. Mmh.
Donc tous les droits, enfin une majorité des droits.
Majorité, elle est à moi, elle est à moins pour Morgane. Mais je vais en reverser à Morgane, parce que je trouvais que c'était normal, parce qu'elle s'investissait autant que moi dans le groupe. Mmh. Et puis voilà, ça a été... ça qui nous a nourris vraiment, qui nous a mis à l'abri pendant, disons, 3-4 ans. C'était ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on signe un artiste, il y a même des pôles synchro qui sont créés dans les labels. La synchro, c'est la musique de pub. C'est-à-dire que si jamais, avant de signer, si tu avais au moins un ou deux singles pour la radio, parce que c'est le nerf de la guerre, la radio. Si jamais tu n'as pas de morceau qui rentre en radio, tu ne vends pas de disque. L'idée, c'est d'aller sur énergie. Moi, non, pas pour des artistes comme moi qui sont plus dans une recherche pas. Ça va être horrible ce que je vais dire, mais pas de méga grand public, mais plus qualitatif que quantitatif. Je préfère faire des beaux disques que faire des compromis pour passer sur énergie. C'est pas moi. Mais si jamais j'y passe, je serais très heureux. Ça voudrait dire qu'il y a eu un accident, mais ça voudrait dire que je serais très heureux. On n'a jamais failli passer sur énergie avec Cocoon, par exemple. Ça n'a jamais été question. Mais en tout cas, Virgin Radio, déjà, c'était super. C'est une radio, je trouve, très adaptée à notre musique dans ce format-là. Je sais plus où j'en étais. En tout cas,
des revenus.
C'est ça. C'est un passage radio génère de l'argent. Un passage radio. Donc, quand tu passes sur plusieurs radios 10 fois par jour, ça génère 10 fois de l'argent sur le nombre de radios. Mais ça, tu t'en rends pas compte tout de suite. Tu t'en rends compte parce que c'est a posteriori. C'est un an après que la SACEM tombe.
Ah oui, ils gardent l'argent pendant un temps.
Non, c'est juste que c'est d'un an à l'autre.
D'accord.
Donc la première année, t'es un peu... Mais là, je suis en train de toucher
coup,
ce qui passe
l'année
dernière, tu vois. Et là, l'année prochaine, voilà.
Mais au final, beaucoup de gens disent qu'il y a beaucoup de concentration. Enfin, c'est un peu toujours les mêmes titres qui passent.
Exactement.
En radio en ce moment. Il y a une énorme concentration.
Ça s'appelle l'airplay, c'est-à-dire qu'un... Alors, j'ai jamais trop compris comment ça se passait. Il y a des tests, en fait. Ils appellent 500 ou 1000 personnes, les radios. Par exemple, Virgin Radio appelle 1000 personnes.
Ah, ils font des tests de panel
Ouais, des panels. Ils passent 10 secondes de la chanson, je crois, ou 15 secondes à la personne. La personne dit stop ou encore. Si elle dit encore, la radio, l'airplay monte pour le morceau en particulier.
La vache.
Ouais, c'est des gens qui
d'accord, donc c'est même pas un choix d'une équipe artistique.
Si, d'abord, la radio choisit ou pas, elle sent. Le directeur artistique de Virgin, je crois. Mais je parle de Virgin, ça se trouve, c'est pas le cas chez Virgin, j'en sais rien. Mm. Mais en tout cas.
Oui, mais dans un objectif de.
Ça, franchement, il faudrait demander
au
label. Je crois que tu invites des labels dans l'émission, des directeurs de labels. Eux, ils sauront mieux répondre que moi. Mais moi, on m'a raconté ça. Pour Cocoon, ils appelaient, ils faisaient écouter 10 secondes de Cocoon, ils disaient stop ou encore. Ils ont, par exemple, 30 places de singles possibles par mois à rentrer ou à sortir. Et puis voilà, ça, c'est une rotation. C'est pour ça que finalement, on a l'impression d'entendre toujours les 30 mêmes chansons.
Oui, parce qu'au final, c'est les panels de gens qui sont peut-être un peu toujours aussi les mêmes, enfin, le même style.
Et puis surtout,
et
chaque
ça,
radio...
Ça nivelle par... Ouais, ouais. Surtout quand t'écoutes 10 secondes, quoi. C'est quand même vachement compliqué de...
Et alors, c'est ça qui est horrible, c'est qu'il faudrait que... Peut-être que c'est 20 secondes, mais il faudrait que tout de suite, il y ait le refrain qui rentre. Ouais. C'est pour ça que les chansons durent toutes 3 minutes, elles sont très formatées. Ça formate les chansons, et inconsciemment... Quand on écoute la radio, on se rend compte qu'elles sont toutes dans le même format.
Donc ça peut influencer ta façon de créer.
Je suis sûr que moi j'ai fait mes chansons. Mais en même temps, j'adore la radio. Ça, c'est mon média préféré. Pour moi, si j'avais pas fait Cocoon, j'aurais voulu travailler à France Inter. Quand j'allais à la radio avec Cocoon ou moi là, quand je vais faire une interview ou un truc, je suis comme dans mes petits souliers. Enfin, c'est mon endroit préféré au monde, la maison de la radio. Donc j'aurais préféré
avec ces beaux studios des années 70.
J'adore la radio, quoi. Mais à chaque fois que j'allais à la radio, c'était un enchantement. Alors que la télé, j'aime moins, tu vois. C'est moins mon truc.
Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pour ça que nous on a choisi de faire une émission qui est purement audio-radio, parce que c'est un aspect, je sais pas, cosy.
Ouais, ouais. Non, les concerts.
Intime qui est vachement spécial.
Bah ouais. Mais les concerts, ça fait un revenu.
Ouais, parce qu'au final, vous avez fait un nombre max de concerts, vous avez fait plus de 400 concerts, une tournée mondiale, etc.
Donc ça fait mais ça fait des sous, mais ça fait pas de la folie. C'est-à-dire, par jour, tu gagnes un cachet qui va entre, je crois que le minimum légal c'est 80 euros, jusqu'à. Ça peut être 1000, 1500 euros, mais moi, ça, c'est pour des. C'est pas très intelligent, parce que ça veut dire que tu donnes 1500 euros aussi de charge à l'État quand tu fais un salaire de 1500 euros. C'est-à-dire que tu payes une charge de 3000 euros, etc. Enfin, tout ça, c'est des trucs que j'ai appris sur le tas. Hein. C'est des choses que tu n'apprends pas en étant artiste, mais il y a des gens qui te conseillent, qui t'apprennent, et c'est très intéressant. Donc, il y a des moyens de faire des cachets plutôt moyens, disons, de 500, 400. Et puis voilà, c'est vrai que quand tu fais 200 concerts, le calcul est vite fait, mais. On les a fait sur 6 ans, les 400 concerts. Enfin voilà, ça fait, disons, un SMIC par mois, quoi, un peu plus.
Ah, parce que beaucoup de gens, notamment sur le web, il y a des gros débats sur la musique devrait revenir un peu à ses origines de spectacle vivant, beaucoup.
Mais alors, d'après ce que tu me dis... Le danger, c'est que maintenant, les gros groupes, en tout cas les groupes qui commencent à rentrer en... Enfin, même Cocoon, on aurait pu un moment, commencent à profiter des festivals. On a beaucoup parlé de cette polémique-là aussi, où les groupes demandent 60 000 euros pour jouer une heure. Oui, les festivals, du coup, sont obligés de trouver des sponsors d'alcool, par exemple, des alcooliers, des...
D'accord, donc il y aura un changement
maintenant, c'est le grand marché.
Qui serait d'abord, avant, le concert servait à... Il servait à quoi ? Il servait à se faire connaître, à...
Avant, le concert arrivait en amont, c'est-à-dire, tu jouais ton disque qui allait venir, c'est-à-dire que tu l'écrivais et tu le composais, et t'étais tout le temps comme un troubadour, un peu.
Ouais.
Et maintenant, c'est en aval, c'est-à-dire, tu sors un disque, et maintenant, après, le concert est une promotion. C'est ça, un peu, mon problème. Mais c'est comme ça, tout le monde fait ça. Mais ce que j'aimerais, moi, ce que font certains artistes, attention, je crois que Jean-Louis Murat fait ça, Bachung faisait ça. Ils testaient l'album suivant sur scène. Ça, c'est génial. Là, c'est de la scène.
C'était qui que j'allais voir à la Java Mathieu Bogart.
Mathieu Bogart, exactement.
Mathieu Bogart, qui teste plein de chansons.
Bah, c'était génial.
Qui les fait varier pendant des mois et des mois.
Et jusqu'à ce qu'elle trouve sa forme. Et là, ok,
en faisant participer le public, etc.
Et ben, je trouve ça, franchement, j'applaudis des mecs, super. Et. J'ai pas pu le faire pour ce disque parce que c'est mon premier disque solo, j'avais envie de le mûrir à la maison, c'est vraiment une autre... Mais tout de suite, là, dès qu'on va rentrer en tournée à partir de septembre, je vais tout de suite jouer les morceaux du prochain album, ça c'est clair, ça c'est obligé. Et justement, ça va me servir de voir comment il fonctionne, etc. Et je pense que c'est ça le live, à quoi ça sert.
D'accord,
c'est pas français ce que je viens de dire. Et j'ai fait un petit
bonjour.
Bonjour.
On est en train de faire Remember.
C'était cool, King ?
Ouais, super.
Ok. Il y a une chanson qui s'appelle donc King.
Et... précise sur Remember
J'en ai joué une, non, basse.
Ouais.
Qui fait des blanches, c'est
ouais,
ça.
Ouais, voilà, c'est ça. En
gros. Ça te paraissait bien?
Oui, de toute façon, c'est un peu le truc qu'il faut faire.
Ouais.
Pas trop bavard, je dirais.
Ouais, non.
Et sur la fin, tu sais, le côté un peu Pink Floyd énervé.
Et là, il peut, pour une fois qu'il peut mettre sa pédale, c'est peut-être là.
La fesse, là.
Ouais.
Ouais.
T'en as pas une mieux, d'ailleurs? Qui fait plus... Ah ouais, j'en ai une, peut-être. Est-ce qu'on peut faire une pause de 6 minutes?
Aucun souci.
Merci. Our way so many times.
Donc au final, l'hypothèse que les artistes puissent revenir à uniquement vivre de la scène, c'est pas forcément faisable ou c'est même pas souhaitable vu qu'ils demanderaient à ce moment-là des cachets énormes dans des gros festivals.
Je parlais des dérives, les limites quoi. En tout cas, c'est que de plus en plus d'artistes, ce que disent les festivals, moi j'en sais rien, mais augmentent démesurément leur demande de cachet ou de prestations, etc. Mais il y a des groupes qui sont en dehors du circuit qu'on connaît, enfin populaires entre guillemets, qui vivent très bien de la scène, qui font des bars, des trucs, qui font leurs dates d'intermittence, qui sont intermittents, etc. Mais qui c'est une autre vie. C'est une autre vie. C'est une vie sur la route. C'est une vie de toute façon, quand t'es en tournée, t'es sur la route, mais tu es en tournée 2 mois par an, quoi. Une vraie quand tu commences à avoir un public, etc. Au début, t'es obligé de... Et c'est génial. C'est les meilleures années de ma vie musicale en même temps. C'était, t'es crevé, t'en peux plus, mais tu vas à Châteauroux. J'ai rien contre Châteauroux, mais tu vas de Châteauroux à Mulhouse, à Strasbourg, à machin, en passant par Paris, des grosses salles, tes premières... Enfin, c'était fantastique de découvrir son public, quoi.
Mais au bout d'un moment, t'arrives à un nombre de... Et puis t'arrives aussi à un nombre de personnes dans la salle qui est gigantesque et t'as besoin d'avoir une structure plus importante derrière. Et
pas gigantesque, mais en tout cas, le nombre augmente. Donc du coup, quand tu vas faire une date à Marseille, par exemple, t'es plus obligé d'en faire 4 de 200 en un an, 4 fois. Enfin, tu viens 4 fois dans la même ville, tu viens une fois par an à Marseille et t'en fais 1500. Voilà, c'est ça aussi la différence. Et donc pour ça, il faut une structure parce que louer cette salle, et voilà, ça demande du professionnalisme... Et ça demande des structures, des cachets, des papiers, des paperasses, des...
Ouais, les autorisations, ouais, beaucoup de cash pour louer la salle à l'avance,
voilà,
tout faire à l'avance.
La sécurité, les conneries.
D'accord.
Et puis même, le groupe, c'est off, il faut louer le bus, le petit bus, payer les musiciens. Parce que nous, en Cocoon, on est deux. Et donc, il fallait payer les 5 autres aussi. Voilà, les répétitions.
D'accord, donc en fait, vous êtes deux dans le groupe qui produisait la musique et l'album. Et à côté de ça, pour les concerts,
des gens, quoi.
Vous êtes obligé d'engager des gens qu'il faut aussi payer.
Et aussi
les
techniciens. On était en tout, on était 12 à la fin. Quoi. C'était énorme, c'était une petite entreprise sur roulette. Mais c'était pas une entreprise au sens. C'est juste qu'il y a des salaires. Et des, voilà. Mais tout ça, on n'en parlait jamais. Enfin, tu décides de ça en début de tournée, et puis après, hop, roule. C'était la teuf.
Et le changement de taille de label, c'était principalement dû à justement ce besoin d'avoir une infrastructure plus grande pour le CD, pour les concerts, pour...
Les concerts n'ont rien à voir avec le label. Les concerts, ça a à voir avec le tourneur. C'est une structure spécifique qui s'appelle pour moi Corrida. Il y en a plusieurs en France, il y en a plein. Il y a Unité, Augury, Asterios, plein de tourneurs qui sont très bons. Nous, Corrida, ce qui est bien, c'est qu'ils sont tournés vers l'étranger. Et pour un groupe qui chante en anglais, c'était super, parce qu'ils pouvaient produire aux États-Unis, en Australie, on a pu jouer un peu partout grâce à eux. Ils ont les réseaux, alors que certains tourneurs français ne l'ont pas. Ils font tourner en France, mais ils sont moins adaptés, mais ils sont super adaptés à des gens qui chantent en français. Voilà, et puis ça, c'est... Voilà, il y a aussi une troisième pôle, mais on pourra en parler plus tard, c'est l'éditeur. C'est lui qui ramasse la SACEM. C'est lui qui crée des droits d'auteur.
Donc les droits à passage radio, passage télé.
Voilà, et qui fait que tes morceaux sont publiés. Ou alors, par exemple, pour une musique de pub, une musique de film... Un film qui veut une musique de toi va contacter ton éditeur, ou alors ton label, mais ton label te renvoie vers l'éditeur.
Mais ça, c'est le fait que tu sois dans un label indépendant, ou est-ce qu'il y a des cas où tout est centralisé
Pareil, il y a des contrats comme ça, maintenant, qui se font, et je trouve ça pas souhaitable de mettre tous ces œufs dans le même panier, parce qu'imagine ça merde, t'as plus rien vers qui te retourner, moi c'était pas mal.
Et puis tu veux moins bien négocier tes partages de droits, etc. Peut-être,
Ouais, j'en sais rien. En tout cas, il y a des moments où je suis plus proche de mon tourneur en période de tournée, des moments où je suis plus proche de mon éditeur en période d'écriture, et des moments où je suis proche de mon label en période de sortie. En période d'écriture, ce qui est pas mal avec l'éditeur, c'est qu'il peut t'aider à financer du matériel, un petit studio à la maison, des trucs comme ça. Moi, ils m'ont aidé pour ça aussi, pour être autonome.
Et au tout début, donc, dans les années 2007, tes revenus, c'était principalement donc, pas beaucoup le CD, pas grand-chose, la tournée, et principalement passage radio.
Revenu d'un SMIC, quoi. Un SMIC,
et en termes de proportion, je viens en fait à pas vraiment la quantité, mais plutôt est-ce que ça a évolué, c'est-à-dire maintenant que tu as des nouveaux types de distribution avec Spotify, avec tout un tas de conneries, les ventes iTunes, etc. Est-ce que t'as vu une grosse évolution dans la répartition de tes revenus en fonction de l'origine, quoi, entre la SACEM, entre les ventes de CD, entre...
En tout cas, je trouve ça hyper, hyper cool, Spotify, je l'ai sur mon ordi, Deezer, j'utilise pas, mais je trouve ça... On a des répartitions, même les vues YouTube, les choses comme ça, c'est pas encore au point. Je pense qu'on est en train de faire la balance en ce moment. C'est-à-dire
au point d'un point de vue retour sur l'investissement
Par exemple, si un passage radio sur France Inter, par exemple, rapporte, j'en sais rien, 100 en valeur. Mmh. Un passage sur Spotify rapporte 1. Une écoute. Donc, on est loin du compte. Sachant qu'en plus, Cocoon est dans le, était dans les 10 ou les 50 plus écoutés sur, sur ces plateformes-là.
D'accord, donc vous êtes quand même représentatif de gens qui êtes vachement écoutés sur les plateformes de streaming, ouais. Et en même temps, ça ne apporte pas... pas un revenu.
Ah non, là par exemple sur une SACEM, donc un artiste reçoit sa SACEM, c'est-à-dire les droits mmh. d'auteur tous les 4 mois, mmh. Et tous les 4 mois j'ai une répartition où je vois exactement le nombre de passages sur telle radio, etc., pour quelle chanson et tout, et sur Spotify ou Deezer je vois le... ce que ça rapporte, et disons que si jamais mon enveloppe totale de SACEM est de 100, j'ai 5 en Deezer Spotify réunis.
D'accord.
C'est-à-dire que je peux me payer mes cordes de guitare.
Mmh. Ouais, donc c'est vraiment c'est anecdotique.
Pas... Pour l'instant, c'est anecdotique, mais il paraît que tout le monde, les analystes, disent ça, mais moi, je me renseigne comme le public lambda dans les journaux, et que la bascule va se faire bientôt. Je ne sais pas comment, mais qu'en tout cas, elle a été faite déjà, ça vient de Suède, je crois, Spotify.
Ouais.
Qu'elle a été faite très vite en Suède.
Ils ont énormément d'abonnés.
Ils ont,
en fait.
Ils ont 5 ans d'avance sur nous. Mmh. Et que, eux, ça s'est fait il y a 5 ans, la bascule. Donc,
En France, la bascule serait faite par rapport au numérique qui compense, commence à compenser les pertes du physique, mais c'est plutôt les ventes iTunes, ce genre de choses. Quoi.
Ouais, iTunes, franchement, Cocoon, sur 300 000 ventes, on a vendu, je sais pas, pour un prorata, et on est des gros vendeurs sur Internet. Mmh. On a été des gros vendeurs sur Internet, on a vendu 50 000, je pense, en tout, même pas à 30 000 sur Internet. Pour 300 000 vraies ventes. Donc c'est encore négligeable aussi.
C'est négligeable.
C'est aussi un truc, c'est qu'il faut. Je ne sais pas si les gens regardent le top sur iTunes, ou c'est, etc. Qui est premier sur iTunes. Le premier sur iTunes vend 200 disques. Et le 20e en vend 10, en gros. C'est vraiment rien, c'est négligeable iTunes. Les gens n'achètent pas encore. Je te dis encore des valeurs. Hein.
Ouais.
Par exemple, s'il en vend 2000, le deuxième en vend 1000, le troisième 500.
Ouais, c'est vraiment. C'est dégressif, c'est vachement dégressif.
Par contre, le premier sur iTunes, ouais, il vend des disques. Mais bon, ça, c'est des trucs. J'y attache pas trop l'importance aux ventes. Enfin, tu vois, les tops, les machins, je m'en fous un peu. Enfin, ce que je veux, c'est que mon disque finance le prochain. Voilà, ce qui est le meilleur format, c'est ça, c'est que ton disque soit amorti par. Et pour amortir un disque, ça dépend du prix du disque, parce qu'il y a des disques qui coûtent, comme Daft Punk, $1 million. Moi, mes disques ne coûtent pas du tout ça, ou cette Cocoon, mais en tout cas, ce qui a permis de faire le prochain, c'est, et de là faire mon album solo, c'est que les disques de Cocoon ont permis un retour sur investissement de la part du label, et donc du coup, c'est vraiment la loi du marché. Hein.
Donc l'objectif, ce n'est pas d'avoir une rente petit à petit, mais c'est plutôt juste de continuer à avancer, et que ça finance ta création.
Au bout d'un moment, je pense...
Au bout d'un moment, il faut quand même retraite, tout ça.
Ouais, j'ai travaillé, mais je mets de côté, tu vois, mais pas comme tout le monde, quoi, pas ouf. Enfin, comme quelqu'un d'un employé, quoi, ou un, je sais pas moi, un prof, voilà, mais c'est pas la folie, quoi. Les gens, ils croient que parce que tu es chez Nagui, tu es millionnaire ou t'as une pub taille fine, machin, ça, c'est, faut vraiment revoir. Et puis surtout, ta carrière, je sais plus de qui je voyais une interview hier, peut être explosée sur 3-4 ans, mais après, t'as plus rien pendant 10 ans, etc. Je pense que les gens, aujourd'hui, qui sont cool, c'est ceux qui ont fait une quinzaine d'albums, qui ont 50, 60 ans, je sais pas quels artistes, mais eux, au moins, ils ont plusieurs disques derrière eux qui se vendent toujours, perpétuellement, même si c'est un
petit peu. Ils passent à la radio.
Ils passent encore, ils ont des morceaux. Ça, c'est super.
Je pense qu'on a cette impression, parce que comme vous êtes lié forcément à l'industrie du spectacle, qui met beaucoup en avant les gens, qui met beaucoup de paillettes, etc., forcément, ça, par ce prisme-là, ça déforme la vision que.
Non, on n'est pas. On roule pas sur. Moi, j'ai une Peugeot 207, tu vois, une voiture normale.
Ouais, mais c'est parce que t'es un artiste.
Non, mais j'ai pas du tout le truc. On n'est pas Rihanna, tu vois, c'est rien à voir. C'est, l'industrie en France, je crois que c'est Pascal Nègre qui disait ça. Moi, j'aime beaucoup Pascal Nègre.
Patron de mon frère, donc je peux rien dire.
Ah d'accord. Non, mais il y en a qui l'aiment pas. Moi, je sais que c'est aussi mon patron. C'est le patron du label de Universal, et il dit des choses très vraies en disant que un disque d'or, c'est un salaire de cadre sur un an. Donc je crois que c'est 2000 euros par mois, 2500 euros par mois sur un an, c'est tout. Et donc on croit disque d'or, t'es blindé, machin. Et le marché de la musique, c'est le marché par an d'un hypermarché. Un Leclerc.
Ouais, j'avais calculé que c'était à peu près juste uniquement 10 fois ce que produisait le vendeur de poulet doux en France, à savoir un marché qui est pas si énorme que ça et qui
s'adresse
pourtant...
à des gens. C'est très restreint finalement les gens qui achètent des disques. Moi, j'ai plein de gens qui, quand je parle, par exemple, j'ai pris le taxi tout à l'heure parce qu'on est à Paris là, et ça m'arrive de prendre le taxi et je parle et les mecs, n'écoutent pas de musique, par exemple. Il y a des gens qui n'écoutent pas de musique. Enfin, ça, moi, ça me paraît ouf, mais...
Mais ce qui choque, justement, c'est qu'il y a un tel décalage entre la répression qu'il y a eu et qu'il y a, ou en tout cas les mouvements politiques avec la Hadopi et tout ça, par rapport à cette taille de marché.
T'as déjà connu des gens qui ont eu
ouais.
des lettres ou des trucs.
Au final, c'est assez ridicule. Je crois qu'il y a eu, quelques déferments devant le parquet. Il y a eu une amende de 150 euros.
Ouais, voilà.
C'était en plus un mec dont la femme, c'était sa femme, il s'était divorcé, c'était sa femme qui avait téléchargé un album merdique, je sais plus. Non, mais c'est, ce qui a été critiqué beaucoup, c'est justement, ça a l'air de l'extérieur amusant, mais au final, du côté des internautes et du côté de ceux qui travaillent dans le numérique, etc., ça, c'était très insidieux dans la façon de, les lois qui ont essayé d'être passées, de remise en question de certains aspects de la vie privée, de certains aspects de, même de tout l'écosystème numérique des entreprises qui travaillent dans le numérique. Pour, entre guillemets, un aussi petit marché et un piratage qui faisait plus ou moins de dégâts, on essayait de mettre en place des choses qui, pour nous, paraissaient hyper disproportionnées. Ouais, en fait. Et c'est ça qui a gêné, surtout quand l'industrie de la musique a débarqué dans un milieu qui ne comprenait pas trop Internet et qui a essayé de le régir par des choses qui ne sont pas forcément naturelles.
Moi, aujourd'hui, je suis chez une major, et je pense que c'est les majors qui ont... je suis chez l'ennemi, entre guillemets. Aujourd'hui, je pense que les majors sont vraiment, surtout des labels comme Barclay, etc., qui maintenant ont engagé des gens, des jeunes de notre âge, qui sont des community managers, par exemple. Y a des gens qui nous aident pour faire nos Twitter, nos Facebook. Je trouve que c'est la moindre des choses. Depuis 5 ans, ils ont commencé à engager des gens comme ça, peut-être même avant, mais je trouve ça enfin un grand
pas. Ils ont mis un moment à réagir.
Ils ont mis un moment. Ils ont été aussi, en même temps, ils l'ont un peu cherché, la crise, parce que le CD, moi, je pense que c'est le CD. Ce qu'on a fait du CD, c'est-à-dire déjà l'objet. On en a parlé tout à l'heure, c'est horrible, cet objet. On va toujours en vendre, parce que moi, de toute façon, je vais essayer de le rendre pas sexy, mais tu vois, plus attirant, ce CD, en essayant de le rendre plus joli, etc. Là, on voit, il y a un artiste qui s'appelle Woodkid, qui buzz beaucoup en ce moment, qui a sorti carrément un livre de ouf pour son édition limitée, et je crois que ça marche bien, c'est super. Moi, j'applaudis les démarches comme ça. Bref, je pense que les labels... Donc d'abord, ils ont sorti tout le back catalogue, c'est-à-dire que le Led Zepp des années 70, ils l'ont réédité. Donc on a voulu racheter le CD. Donc on a voulu avoir... Parce qu'il paraît qu'il y avait un meilleur son. Un, c'est faux. C'était mieux sur vinyle. C'est vrai, tout le monde le dit. Enfin, les ingénieurs du son, ça a compressé le son. Ça a habitué nos oreilles. Parce que moi, je parle de son, en fait. Nos oreilles sont habituées, maintenant, en 2013, à avoir un niveau sonore tout le temps compressé. Pour que, ben, dans nos vies actives, dans la ville, dans les magasins, le son passe par-dessus tout, par-dessus les voitures, par-dessus le brouhaha, et donc la compression du son, c'est un fléau.
Mais si le MP3 écoutes, là-dessus a été pire au final.
Et ben oui, parce que ça compresse encore plus, mais il y a des formats comme le Wave, ou voilà, ouais, des choses. Mais après, il faut avoir la place dans ton iPod ou dans ce que
tu veux. Maintenant, on arrive à des, quand on fait du streaming, etc., avec des très bonnes bandes passantes.
Exactement. Et on a de la DSL de ouf maintenant, tu vois. Mais allez, il y a eu un moment fléau pour le son et nos oreilles en ont pâti. C'est-à-dire que je pense que l'oreille des gens, nous, on est dans des studios
c'est
qui
habitué.
Coûtent 1000 euros, 500, entre 500 et 1500 euros la journée. Des studios où on se prend la tête, t'as vu, là, t'étais là, t'as assisté à l'enregistrement pour le moindre son, pour essayer qu'il ait exactement les bons aigus, les bons graves, etc. Le problème, c'est quand on sait que mon cousin qui a 17 ans va l'écouter sur son petit MacBook ou son petit
avec
laptop.
Avec des oreillettes pourries.
Sans oreillettes, il va les écouter avec les enceintes du Mac. Dégueulasse. Même moi, à la maison, je me suis dit un jour, putain, je me suis habitué à ce petit son d'enceinte pourri de Mac et je me suis acheté des petites enceintes. Et voilà, ça a été une révélation. Je me suis dit, putain, et en fait, le Bluetooth, donc une petite enceinte Bluetooth, je me suis dit, mais le MP3, c'est chaud, quoi. Je me dis, mais même ma musique, quand je l'ai écoutée après le studio et que je l'écoute sur le CD, je me dis, mais on n'est pas le son que j'avais dans le studio.
Et ça t'a perturbé dans ta façon de créer ou au final, tu continues à maintenir ce niveau de qualité et
Maintenant, j'essaye de faire encore plus attention au son. Mais des fois, c'est décourageant d'être dans des studios où tu passes... Alors, c'est une passion aussi. C'est comme ceux qui font de la Formule 1, où t'as l'impression d'être dans une Formule 1. Et qu'après, tu profites de ce moment-là et que ça plaît à une minorité de gens. Les gens s'en foutent finalement du son. Moi, j'ai vu que tu avais un casque super. Alors maintenant, il y a le marché des casques. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc de ouf. Et ça, c'est pas mal. Les gamins, ils n'ont plus des baskets ou des blousons de ouf, ils ont un casque.
Alors et après, il y a beau avoir des super casques hyper fashion de marque, le son est parfois
Ah ouais, parce que Dr. Dre, il y a plein de mecs qui s'affilient à des casques. Il paraît que celui de Dr. Dre est pas mal. On m'a dit, ça va. Il est très high fidelity, c'est-à-dire qu'il améliore le son. Ça, c'est pas mon truc non plus.
Il y a beaucoup de traitements intégrés dans les casques.
Et ça, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les trucs très neutres. Bref, si tu écoutes un disque qui est sorti dans les années 60, genre un Beatles, un Bob Dylan, un classique... avant sa réédition en CD, donc un vinyle vraiment, tu te rends compte que putain, ça vit. Tu sens qu'à droite, t'avais le batteur, à gauche, t'avais le bassiste, au milieu, le chanteur. La stéréo est vraiment là, c'est une vraie stéréo. La réverb est sublime. Mais tu le mets dans un Jennifer, où il y a des filles qui s'habillent, là, où j'en sais rien. À fond, on n'entend pas. Parce que c'est pas compressé comme aujourd'hui, les Rihanna, les trucs de ouf. Adèle. Et Adèle, encore, je trouve que c'est un des derniers disques qui sonne vraiment bien, parce qu'elle l'a fait. Elle l'a fait avec beaucoup de simplicité, ce disque. Finalement, son piano, sa voix, une batterie, et c'est très bien fait.
Donc au final, ceux qui critiquent, vous qui critiquez la MP3 Guetta, maintenant, ouais, étaient les mêmes qui ont fait le CD. D'accord. Et le numérique, ça a perturbé aussi autre chose, c'est beaucoup d'achat au titre, d'écoute au titre, voilà, la déstructuration de l'album. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, toi, t'influence dans ta façon de créer? Le fait que, tout d'un coup, on achète au titre iTunes et puis le CD en lui-même, quoi.
J'ai fait deux albums avec Cocoon. Le premier, en parlant d'un accident d'avion. Les 12 chansons parlées de cet accident d'avion, c'était un album conçu de A à Z. Il fallait l'écouter de la 1 à la 12 dans l'ordre. Il y avait un ordre. Il y avait une histoire. Le deuxième album, pareil. D'ailleurs, ça faisait partie de ma conception de transformer le CD en un objet esthétique et un objet d'art, quoi. C'est-à-dire un livre, en fait. Parce que le livre, pour moi, c'est la valeur refuge. Si tu veux raconter une histoire, le livre numérique, j'ai pas encore essayé, ça me branche pas. J'ai besoin du papier, je suis un peu old school là-dessus.
Gros débat.
Bref, on n'est pas là-dessus pour en parler. Mais... Et deuxième, pareil, de la 1 à la 12, c'est un voyage en baleine magique qui t'amenait dans les îles, d'île en île, de chanson en chanson, et il se passait quelque chose. À la fin, les personnages ne sont pas les mêmes qu'au début. Là, le disque que je suis en train de faire, déjà, ça faisait partie de la charte aussi de Cocoon. Là, j'essaie de me différencier de Cocoon. Parce que déjà, d'une, c'est pas du Cocoon que je fais, j'essaie déjà musicalement de m'en différencier, t'as pu entendre. Et puis, dans l'approche, bah, je me suis dit, exactement, il n'y a pas d'ordre dans ce disque. J'ai du mal à trouver le titre, le titre de l'album.
Parce que forcément, trouver un nom d'album s'il n'y a pas...
C'est super dur. Ouais. Et j'ai pas envie de donner un titre d'un titre de la chanson ou lui donner mon nom, tout simplement, c'est pas terrible. Et j'ai du mal à trouver un filigrane. Et en même temps, je trouve ça super, parce que ça veut dire que bah, c'est un disque de son temps. C'est-à-dire que c'est un disque... Mais tu as raison, qui est influencé par son temps.
Mais ça, et tu trouves ça plutôt... Enfin, tu l'as fait de manière plutôt négative ou c'est non, juste que tu suis
à la base,
du temps,
je me suis écrit une charte et je me suis dit, pour celui-là, pas d'histoire. Donc, bah, de toute façon, dès le début, voilà. Mais je pense que si j'ai écrit ce pour celui-là, pas d'histoire... Déjà, c'était très complexe de le faire avec Cocoon parce que ça me prenait des heures et des heures pour essayer de tout lier entre eux. Là, j'avais pas envie, j'avais envie de kiffer et de faire ce disque très vite, très simplement et qui sonne très ensoleillé, très simple. Et donc déjà, ça sonne comme ça, parce qu'il n'y a pas c'était quand même une chape de plomb un peu aussi, ça, dans les cocoons, qui m'empêchait d'aller encore plus loin musicalement. Là, du coup, je suis libre, chanson par chanson, à développer un univers par chanson. Donc, avantages et inconvénients, comme pour Cocoon, où c'était aussi un inconvénient d'avoir cette histoire initiatique, quoi. Mais je suis très content de faire un disque où il y a 10 chansons ou 11 chansons, je pense qu'il va être assez court, mais... où tu peux les picorer, en prendre une de temps en temps, que celle-ci, je l'aurais fait. Après, je sais que ça va très vite me manquer d'avoir un concept.
Tu risques d'y revenir
Ah ouais, très vite. Parce que j'en souffre un peu.
Peut-être que les habitudes, pareil, de consommation vont évoluer et que ça te fera encore...
Mais je le fais pas tant par rapport à la consommation. Hein. Je le fais parce que peut-être, moi aussi, j'ai consommé comme ça.
Oui, donc t'as pris l'habitude toi-même en tant que...
C'est vrai que sur iTunes, j'achète souvent un titre de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Par exemple, le dernier Timberlake, j'ai écouté un peu, et puis je me suis dit, tiens, j'ai acheté quelques titres. Alors qu'avant, j'achetais le CD.
Forcément, certaines chansons passent à la trappe alors qu'on apprend à les apprécier, coincées entre deux autres, où on a l'habitude de les écouter. Donc c'est assez
et aussi,
c'est assez
ça fait partie de la violence et de la rapidité de notre vie. Je trouve que 2013, 2012, c'est beaucoup plus rapide, violent. On passe très vite d'une chose à l'autre, les blogs musicaux, j'ai l'impression que putain, il y a des groupes qui sortent tous les jours, encore plus qu'avant.
Même ça, c'est une richesse.
C'est génial, mais.
Au final, le net a apporté une richesse assez. Bon, il y avait déjà ça avec MySpace.
Mais là, c'est fou. En ce moment, je trouve tous les blogs, les trucs, tout ce qui sort par jour et ce que j'aime. Il y a des gens talentueux qui sortent tous les jours, et je pense que ça vient aussi de la démocratisation du home studio. Qu'aujourd'hui, pour faire de la musique, il faut pas beaucoup d'argent, il faut un petit ordi, pas forcément un Mac, une petite carte son et un petit micro, et que pour 500 boules, tu peux faire ton... 500 boules, ça veut dire 500 euros. 500 euros, tu peux faire un disque, quoi.
Et justement, venons-en, à partir du moment où tu as une simplification des moyens techniques, ou...
Mais, pour autant, pardon, pour finir sur cette idée, je trouve qu'il y a toujours aussi peu de talent qu'avant qui éclose. Même si j'aime beaucoup de choses...
En fait, pour moi, y a... des barrières, même si les barrières sont tombées...
Pour moi, il y a aussi toujours aussi peu de bons disques.
D'accord.
C'est des bons disques, par an j'en aime 5, des très très excellents disques, hein. C'est-à-dire que ceux que je vais aimer toute ma vie.
Mais est-ce que c'est à cause de la sélection qui a qui a fait que cela sorte en tant que disque, et t'arrives à trouver plus de trucs sympas sur le net, en tant que gens qui sont pas encore produits, est-ce qu'il y a une créativité qui augmente, ou même d'une manière générale, il n'y a pas de...
Pour moi, ça n'a rien changé en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres sur le net, moi j'écoute plein de choses, j'écoute plus, par contre c'est génial, parce que j'ai plus d'influence qu'avant, grâce au net. Le net, pour moi, c'est un outil de création formidable, quoi. Je vais piquer des sons, je vais m'inspirer d'un mec, je vais, d'un son, tu vois. Si jamais j'ai aimé, par exemple, le pied de grosse caisse dans Pharrell Williams, par exemple, je vais essayer de lui piquer en essayant de le recréer chez moi, mais du coup, il va être différent parce que c'est par mon prisme. Enfin bref, ça, c'est génial. C'est grâce au net.
C'est rassurant que même les artistes aient aussi cette...
On se pique tous des trucs.
Tout ce mouvement qui pose aussi des problèmes sur le net, savoir tous les mashups, les mix qui sont censurés par sur YouTube, etc. Parce que là, vous utilisez, il y a des détections automatiques qui détectent que tu utilises tel bout de morceau, mais t'as pas les droits, donc ça le supprime. Donc c'est rassurant que vous aussi, vous ayez la tendance à pas à plagier du tout, mais au contraire à recréer en picorant des trucs.
Mais je crois que tous les artistes avec qui je travaille sont comme ça. On écoute ce qu'on a aimé. Tiens, ouais, pour cette chanson-là, putain, tu te souviens du pied ou de la charlée? Ou de la snare, de la caisse claire, de la chanson de 1990.
On a entendu tout à l'heure, tu faisais référence à un tel truc, à tel endroit, à tel...
Je disais, là, c'était comme Gainsbourg dans Melody Nelson, pour une basse. On a essayé de chercher un son qui m'avait plu dans un disque qui n'a rien à voir. On a essayé de... Ça ressemble pas du tout à Melody Nelson, c'est complètement bourrin.
Mais t'arrives à autre chose au final.
T'arrives à autre chose, et finalement, ça a parlé à tout le monde. Donc ça, c'est super, et le net décuple ça. Le net est, pour moi, un ami, c'est pas un ennemi, quoi. Pour les artistes que je reconnais. Et même, j'ai travaillé beaucoup avec Stéphane Escher, qui est un artiste de la génération qui pourrait être mon père, qui a 50 ans. Et on a fait un disque ensemble. J'étais chez lui, j'ai vécu des mois avec lui, etc. C'était fantastique comme expérience. Et je me suis rendu compte qu'il est tout le temps derrière son ordi, qu'il l'utilise différemment de moi. Il est encore plus geek que moi, d'ailleurs. Il a des logiciels de ouf et tout. Mais ça lui sert à créer ses albums qui, à l'arrivée, ils ne sonnent pas du tout ordinateurisés. Et c'est des disques qui sonnent très classiques, mais ça lui sert, ça l'inspire, ça lui fait des idées, ça lui fait des pings et des pongs, tu vois. Et finalement, aujourd'hui, c'est devenu un truc, pour certains artistes, indispensable, quoi.
Maintenant que tu peux extraire de la créativité de ça, que tu peux communiquer directement avec tes fans, avec les réseaux sociaux,
ça,
tu bosses beaucoup. Maintenant que tu peux acheter du matos, ça pas trop cher pour faire des choses chez toi. D'ailleurs, toi, tu fais déjà pas mal de trucs chez toi.
Mais il faut l'aspiration après, un peu de talent. Quoi.
maintenant qu'il y a tout ça et que tu peux lever des fonds avec du crowdfunding ou des choses comme ça, est-ce que tu as envisagé...
C'est très bizarre pour moi, ça.
Est-ce que tu as envisagé... est-ce que tu pourrais te séparer d'un label? Est-ce que tu te vois tout d'un coup faire beaucoup de choses tout seul? Est-ce que tu penses que tu aurais percé, enfin, tu aurais pu vraiment, si maintenant tu n'étais pas connu, réussir à percer sans le soutien d'un label?
Non.
Ou maintenant que tu es connu, est-ce que tu penses pouvoir t'en séparer? Ou est-ce que tu en as toujours besoin d'un point de vue conseil, accompagnement, des trucs dont tu n'as pas envie de t'occuper
Non, mais j'aime avoir un label, parce que d'une part, ça professionnalise quand même pas mal les choses. C'est une structure qui est carrée, il y a des postes qui sont indispensables, à la promo par exemple. Télé, radio, presse.
Les contacts presse.
Le mec, le chef de projet qui fait ta pochette, qui t'aide à faire ta pochette. Enfin, tout ça, c'est une aide. Tu payes ton label. Finalement, un contrat, c'est quoi? C'est que je donne une partie de mes royalties pour qu'il m'aide à sortir ce disque dans les meilleures conditions. Et ça, c'est un truc dont je n'aimerais pas me passer parce que j'aurais la flemme, en fait, surtout. Il y a des artistes qui... je veux tout gérer, tout contrôler. Moi, franchement, avec un label comme Barclay, parce que vraiment, c'est pas tous... C'est fantastique parce que tu peux... ils te laissent libre, ils mettent un minimum de moyens sur la table, même quand t'es pas connu. Moi, ils ont cru en moi pour ce disque. Enfin, ça a été... tout seul, j'aurais pas pu le faire, ce disque. Du coup...
Et pour autant, le partage de valeur te convient. Entre les royalties que tu reverses, le contrôle que t'as sur ce que tu fais, etc. Enfin, pour toi, c'est une situation totalement win-win.
C'est pas de la win-win, en tout cas. Moi, ça me permet de faire ma passion parce que ça me permet de faire des disques. En fait, ils me permettent de faire mes disques de mes rêves, en tout cas, avec toutes les contraintes que... Tu fais jamais le disque de tes rêves. À chaque fin d'un disque, tu te dis « Putain, pourquoi j'ai pas fait ça comme ça ?» et tu le fais dans le suivant, etc. Mais en tout cas, ils permettent de t'éviter pas mal de galères. J'admire, moi, les artistes qui font... j'admire pas Radiohead quand ils avaient fait,
ils ont fait une opération, ouais.
Mais en même temps, c'est Radiohead.
Oui, donc voilà, faut atteindre un certain stade pour pouvoir faire ça.
Pour eux, bien sûr. En plus, c'est un groupe à fanbase, quoi. C'est le groupe qui a des fans de ouf. Moi, ça serait un peu la loose, quoi. Je pense qu'il y aurait... je dis pas que j'adore les gens qui me suivent sur Internet, je réponds, etc. Mais
pas assez pour pouvoir...
Mais je pourrais jamais financer grâce à eux, désolé, mais vous êtes pas assez nombreux.
Vous êtes des radins.
Non, pas du tout, mais voilà, c'est compliqué, quoi. Et puis, j'en ai pas l'envie. J'aime bien, je suis un peu old school, en fait, j'aime bien avoir l'idée d'une maison de disques qui t'accompagne, qui t'aide pendant plusieurs disques et tout. Il faut que je dise au revoir à mon bassiste.
Désolé. Bon, cool, salut.
Merci pour toi.
Ouais, super, bonne continuation.
Ciao.
Bonne vibe, c'est très cool. Et puis, écoute...
Sinon, donc l'avenir, t'es plutôt optimiste, pessimiste, l'industrie, la création, entre ce que t'écoutes, ce qui se fait, le piratage, est-ce que tu penses que tout ça va aller vers quelque chose qui va dans le bon sens ou...
En tout cas, ce que je pense, c'est une très bonne question, ce que je pense, merci. Déjà tout le monde s'en fout, mais en tout cas...
Et je serais pas là, ouais. Si...
Mais c'est super gentil de me demander, je pense que tout ce qu'on s'est dit en tout cas, c'est important de le dire, c'est pas des choses où je me pose la question tous les jours. Là, on parle, tu vois, beaucoup de business, d'économie, de marché. Ouais. C'est pas des trucs que les artistes, je pense, enfin, en tout cas, pas ceux de ma génération. Nous, on essaie surtout de continuer à en vivre, etc., etc. Donc ça, je voulais juste le repréciser, c'est que je suis pas un requin à parler, à penser argent.
Mais au final, je suis pas sûr que les internautes considèrent que ce soit les artistes, les requins. Je pense que ceux qui sont beaucoup plus ciblés, c'est les labels, les majors.
Ouais, et pareil, je pense qu'il faut arrêter. Il y a des gens très bien dans les majors. Ils essayent, ils font ce qu'ils peuvent en ce moment. J'ai l'impression que voilà, ils sont sur le bon chemin, ce que je pense. Mais par contre, que le marché en lui-même, d'après ce que je vois, moi j'ai pas sorti de disque depuis fin 2010, on est début 2013, donc ça fait 2 ans et demi.
Attendre,
Je sais pas à quoi m'attendre pour ce disque, pour deux raisons, parce que c'est pas un Cocoon. Et en même temps, est-ce que Cocoon aurait été attendu, tu vois, en 2013, parce qu'on est plus dans le son du moment aussi. Cocoon, c'est en ce moment, on écoute beaucoup de C2C, de choses comme ça. Mais bon, on s'en fout. En tout cas, l'idée, c'était... Là, on n'avait pas du tout envie de faire un cocoon. On avait envie de faire moi, mon disque, et Morgane, son disque. Ça, c'était important pour enlever les frustrations inhérentes à un groupe. C'est-à-dire que Morgane voulait faire des chansons qui lui ressemblaient plus, et moi, surtout Morgane, tu vois, parce qu'elle est toujours avec ma chape un peu autour... Je prenais beaucoup de place, quoi. Donc,
ouais, donc chacun, vous, au bout d'un moment, vous voilà. Limitez sur la créativité, moi, du coup, sur les trucs que vous avez envie de tester.
J'avais envie de tester plein de trucs de ouf que j'aurais jamais osé faire dans Cocoon. Voilà. Bon, bref, en tout cas, donc pour cette incertitude-là, moi, je repars un peu de zéro, quoi. Même si j'ai eu un groupe avant, je repars à zéro, ouais, c'est un peu, ou à plus 5, tu vois, mais pas comme Cocoon. Donc, j'espère qu'en tout cas, je vais pouvoir, au fur et à mesure, faire. Disons des disques sous mon nom, quoi. Ça serait le. Déjà, rien que ça, ça serait super que ce disque puisse en financer un suivant. Ensuite, je pense que le marché en lui-même peut pas être plus bas. D'ailleurs, je pense qu'on est arrivé au point le plus bas. Je sais pas comment ça s'appelle ça dans une courbe, mais on est dans le point
le plus bas.
Dans le point le plus bas. Et que c'est même en train de remonter. D'après, depuis un mois ou deux, il y a même, ça y est, il y a enfin des
aux
bénéfices.
Aux US, apparemment, voilà, l'équilibre est bien atteint. Et en France, on est, d'après Pascal Nègre, on est à moins 0,3 ou moins 3 ou quelque chose.
On va y être voilà, donc, à 0 dans l'équilibre. Ouais, enfin, moins 0,3 par rapport à une grosse lose. Tu vois ce que je veux dire, par rapport
mais
à l'année précédente.
Mais est-ce que ça s'est... Justement, la question, c'est est-ce que cette crise, elle ne s'est pas faite aussi au détriment de est-ce que les labels, est-ce que les majors vont toujours autant prennent toujours autant de risques, ou est-ce qu'elles en prennent beaucoup moins qu'avant, est-ce qu'elles sont devenues beaucoup plus frileuses, est-ce que ça n'a pas coûté beaucoup à l'aspect artistique de tout ça, quoi.
Universal a rarement autant signé de nouveaux artistes que je parle pas, j'en sais rien. En tout cas, moi, Barclays, je vois qu'ils signent toujours des nouveaux artistes. Là, ils ont signé La Femme, un groupe qui a l'air super super bien. Ils ont signé là, ils sont en cours sur 2-3 autres trucs. Ils ont signé Anouk Ayata, qui va sortir un disque bientôt. Enfin bref, ils ont toujours des nouvelles signatures. Ils m'ont signé moi.
Universal est une des rares majors qui n'aurait pas perdu trop d'argent pendant la crise.
Quand même.
Et ils sont bien soutenus.
Il y a des gens qui sont partis, même chez Barclay. Oui.
Ils ont compensé beaucoup de la crise en écrémant énormément leurs coûts fixes.
En tout cas, je pense que... En tout cas, ils investissent toujours. Ils investissent sur un nouvel artiste. Moi, j'ai l'impression qu'ils investissent à la mesure du marché, c'est-à-dire moins que j'imagine il y a 5 ans. Mais ils investissent toujours pour que tu puisses faire ton album, un bel album. Ils investissent toujours pour le promouvoir, j'ai l'impression. Après, ça dépend des artistes. C'est aussi à nous, c'est ça que les gens semblent oublier, c'est que les artistes, c'est la base de tout, quoi. Enfin, je suis désolé, les créateurs, s'il n'y avait pas les créateurs, il n'y aurait rien. Tout le monde dit, sans les maisons de disques, machin, machin. Mais sans nous, il ne serait rien. Donc ça, c'est important de leur mettre, et c'est pas de la présomption, c'est pas présomptueux de dire ça, c'est juste la vérité. Donc,
donc au final, ils font le bon choix stratégique de continuer à maintenir la création.
Voilà, exactement, ils font maintenir la création, et je pense que sans ça, et ils le savent, on est sans investir sur un nouvel artiste qui va peut-être avoir un succès dans 5 ans ou 3 ans, qui va les faire survivre, ou en tout cas vivre, ou gagner peut-être de l'argent, ils sont morts. Donc ils ont intérêt aujourd'hui à, c'est ça qui est paradoxal, à continuer à investir dans des nouveaux talents, que ça soit dans la variété, le rock, la chanson, etc. Ça, c'est quand même à applaudir, parce que je vois toujours des super projets qui sont signés dans les labels indépendants, comme les majors. Il y a des artistes super intéressants en ce moment, quoi, qui débutent.
Et les labels indépendants ont réussi à garder une place importante malgré la crise par rapport à la concentration des majors.
Eux, ils ont vraiment souffert. Moi, mon label Sovereign Gentle continue, il est toujours là, il s'occupe toujours de mes affaires aussi dans une certaine mesure, parce qu'on n'a jamais voulu être dissocié, mais c'est plus dur. C'est plus dur, je le sens, il le sent, c'est plus dur, ils doivent trouver des moyens nouveaux pour. Donc par exemple, en ce moment, la grosse mode, il y a eu les synchros.
Les musiques de pub.
Ça, c'était la mode depuis 5 ans, c'est devenu le nerf de la guerre total. Avoir une musique de pub, c'est devenu.
Pognon,
ouais. Ah ouais, c'est. Maintenant, la maison de disque, j'en parlais tout à l'heure, donc, si tu n'as pas une musique qui, pour eux, pourrait aller dans une pub, Danone, Tampax, Chupa Chups, ils ne te signent pas. Alors qu'avant, c'était, il fallait avoir un single pour aller à la radio. Maintenant, il faut ça, plus une synchro. D'accord. Ça, c'est chaud. Et il y a même des pôles synchro, je te disais, chez toutes les boîtes. Y a un mec...
Ils exploitent beaucoup plus l'image des artistes dans des plans de com. Il y a beaucoup.
Voilà, c'est ça. Le nouveau truc, c'est ça.
C'est ça. C'est clairement une agence de communication dans le label et beaucoup de
partenariats avec des marques. C'est-à-dire que maintenant, Tu vois des choses aussi absurdes que Lenny Kravitz qui fait des sushis pour Sushi Shop, j'ai vu ça. Mmh. Tu vois des choses aussi bizarres que Orelsan qui porte des Reebok. Et encore, c'est bizarre, il n'avait pas besoin, mais en même temps, je pense que c'est un moyen pour lui de capitaliser sur son... Et j'adore Orelsan, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est chelou.
C'est comme si l'image avait... Voilà, la valeur de l'image des artistes n'avait pas vraiment été exploitée avant. Et que là, on a trouvé ce nouveau filon de...
Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille trop rentrer là-dedans. Déjà, les synchro pubs, la première fois qu'on m'en a proposé une pour Cocoon, j'ai dit oui, parce que bien sûr, il y avait de l'argent à la clé. Pas ouf, hein. Il y avait même pas... C'était synchro pour une voiture.
Mmh. Et ça dépend un peu aussi du sujet, quoi.
C'était
si
synchro...
on dit Tampax ou Porsche,
Ouais, mais même, c'était une Volkswagen, tu pouvais pas... C'était pas de l'argent, tu pouvais pas te payer la voiture avec l'argent, par exemple. Mais au moins, tu avais un petit peu d'argent et tu pouvais ne pas payer le loyer pendant 5 mois, par exemple. Mmh. Voilà. Et bien ça, c'était super. Mais en même temps, je me disais, ça pollue. C'est sale une voiture, ça fait du bruit. Moi, je déteste, j'aime bien faire de la voiture, tu vois, mais bon, pas ouf, quoi. Donc, c'est toujours, tu jongles un peu avec ton image et tu te dis, est-ce que. Et d'ailleurs, tous les fans hardcore de Cocoon de la base, ceux qui suivaient depuis MySpace, depuis les concerts dans les bars, nous ont lâchés. Parce que pour eux, on les a trahis. Et on a fait ce choix, on le savait. Ça m'a fendu le cœur, quoi. C'était horrible. Et même la première fois après, ben, de toute façon, en France, on est comme ça. On n'aime pas ce qui commence à être. Diffusé, populaire. La première fois sur Virgin Radio, je me souviens, qu'il y a là, d'autres fans sont partis. Ceux qui avaient supporté Volkswagen, mais qui n'ont pas. Voilà, des choses qui font passer pour un vendu, mais sans ça, franchement, on n'aurait pas pu continuer, en tout cas, c'est vrai, en tout cas, on aurait pu faire un moins bon disque le disque d'après. Parce qu'on n'aurait pas eu cet argent pour. Par exemple, on a pris Abbey Road, on a pris des cordes, des choses, on s'est fait plaisir, tu vois.
Donc tu l'acceptes parce que tu sais que tu vas le réinvestir dans ta création et que ça t'aide à faire.
Exactement. Mais moi, c'est purement financier et financier pour. Je ne garde pas d'argent, je mets tout dans la musique. J'achète du matos, j'investis dans les disques. Voilà. Je crois que c'est ça la clé. Quand tu commences à penser, je vais prendre des actions chez Danone et machin, je pense que c'était déjà plus dans la bonne dynamique. Mais il y en a qui arrivent à faire les deux, hein, ça se connaît. Mais bon, voilà. En tout cas, perspective plutôt cool, complètement différente, toujours un peu plus stressant qu'avant. Enfin, je me lève avec...
Tu te remets en question, tout d'un coup, il y a des échéances.
Voilà, ouais, c'est plus compliqué, mais en même temps, j'ai la chance que je ne fais pas ce métier depuis 30 ans et que... Du coup, j'ai pas eu encore des automatismes. Moi, j'ai vécu le truc en perpétuelle évolution. De mes 20 ans à mes 28 ans, tout ce qui s'est passé de différent, laisse tomber. Hein. C'est ouf.
Et puis, en naissant dans la crise, forcément, t'as moins ressenti la nostalgie de l'âge d'or.
Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que tout le monde m'en parle. Tous les gens avec qui travaillent ont donc 40 ans ou 45 ans. Eux ont connu les tables de coke et de champagne et de putes et les trucs chelous, quoi, les trucs de films. Ils avaient vraiment. Aujourd'hui, c'est le milieu. Tout le monde me dit il y a de la drogue dans la musique, mais pas du tout.
Il n'y a pas assez d'argent.
Non, mais il n'y a plus d'argent. Et il n'y a plus les soirées mythiques, je ne sais pas où, à Saint-Tropez. Mais jamais j'ai vu ça. Jamais j'ai vu de soirée ouf. Jamais
justement,
j'ai
ce qui est resté, c'est la mauvaise réputation de ça.
Et d'ailleurs, il y en a certains, les vieux de la vieille, ceux qui ont 50, 55, le regrettent un peu. Ils sont un peu, ils ont perdu l'âme. Ils devraient prendre leur retraite d'ailleurs parce qu'ils n'ont plus la niaque, ils sont désabusés.
Et puis c'est pas facile de s'adapter à tout d'un coup. Enfin, si jamais tu n'as jamais vraiment connu le net, tout d'un coup, à tout ce qui s'y passe, tant d'un point de vue créativité que diffusion, que tu ne comprends plus ton public. Quoi.
Et puis il y en a qui se sont mis bien pour un bon moment. Comme je disais, le CD, ça a permis de déjà refaire tout le back catalogue des vieux artistes. Donc, ils ont revendu du Led Zeppelin, les Beatles, Michael. Après, ils ont...
On a eu beaucoup cette impression.
Beaucoup de compilations, tu te souviens, ça.
Il y a beaucoup d'internautes qui parlent de ça, justement. Voilà, ils se font surtout du beurre, pas en produisant des nouveaux artistes, mais en n'arrêtant pas de ressortir leur catalogue et en faisant des best-of, des machins.
Les boys bands, c'était chaud. C'était dégueu, ça. Quand ils ont sorti ça, et c'était la folie, hein, à un moment. Ça. Les boys bands, ça a été aussi, ça a apporté le CD, ça. Les projets de Dance Machine, tous ces trucs-là, c'était... Non, moi, j'étais en plein dans cette génération. Je pense que toi aussi, on a le même âge, je pense.
Je suis plus vieux.
Ah ouais. Mais en tout cas, voilà, ça, c'était... Aujourd'hui, tu te dis, mais les gars, c'est normal que les gens vous lâchent.
Et décrochent,
vous leur avez proposé pas vraiment de la qualité depuis un moment. Moi, j'adore en soirée écouter Dance Machine, ça me fait marrer avec mes copains, mais je veux dire, sérieusement, c'est pas comme ça qu'on fait une éducation musicale à des ados, quoi. Après, ils ont pas d'ailleurs, si ils avaient une valeur, un but culturel, on le saurait.
Bon, maintenant, il y a une grosse éducation musicale par la télé-réalité
Ouais, c'est chaud, c'est musicale. Pareil. Ouais, c'est pareil.
Ça devient le principal prisme de découverte de trucs.
J'ai l'impression qu'en plus, ces trucs, moi de très loin, ça monte en plus. Là, ces trucs de les anges de la télé-réalité, ça monte.
C'est-à-dire que. Ouais, mais encore là, c'est pas dans la musique, mais quand tu regardes Nouvelle Star, quand tu regardes.
Alors, moi, c'est bien, on peut en parler, mais j'ai fait une partie du disque de Julien Doré, le premier. il sortait à l'époque du Prisme Nouvelle Star sur M6, la celle sur M6.
Nouvelle
Star. Maintenant,
c'est
M6, sur ouais. D8. Et c'était la Nouvelle Star, vraiment. Il crevait l'écran, ce mec. Mm. Et quand on nous a demandé, j'ai dit, Nouvelle Star, j'ai pas envie de m'approcher de ce genre de télécrochet, etc. Mais le mec avait tellement de talent. Il s'était entouré de gens super que j'aimais beaucoup. On a dit OK. Mais franchement, ça aurait été pour d'autres, ça aurait été niet direct. Là, on m'a approché pour la nouvelle de D8, Sophie Tite. Et ça ne correspond pas à mon emploi du temps, malheureusement, mais je ne pense pas que j'aurais accepté. Parce que j'estime que.
Bah, c'est compliqué de s'attacher à un concept c'est... alors que tu vas plutôt viser.
Non, mais je l'ai déjà fait avec Julien Doré qui, pour moi, était.
Oui, parce qu'il y avait une personne spécifique, mais là, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre.
Bah, je me suis moins attaché à elle, tout simplement. J'ai regardé un peu l'émission et je trouve qu'elle a beaucoup de talent et tout, mais ça, elle m'a moins. Je ne me suis pas senti de lui écrire une chanson, là. Tu vois. Et puis surtout, j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien la Nouvelle Star, en fait. J'aime bien regarder ça avec ma femme. On regarde ça et on est devant la télé, on rigole, quoi. Et puis, enfin, ouais, c'est, d'ailleurs, on le regarde un peu dans un but un peu rigolage. C'est pas moquage, mais. Pas moquerie, mais disons qu'on
un
le regarde.
Un peu coupable, un peu.
Non, on le regarde en. comme on regarderait un film, en fait. C'est un autre monde que mon monde, en fait. Je le regarde. Je connais bien André Manoukian, je connais bien Olivier Bas, je connais pas Sinclair ni Morane, mais je sais que c'est des mecs en plus super pro. Et donc je critique pas du tout le jury du tout, mais je me dis juste, c'est pas notre monde.
Ah, mais c'est comme ça que se le projette les gens, parce que c'est le
The
principal
Voice, c'est
le prisme.
Pire, hein. The Voice, c'est encore pire. La preuve, ça n'a pas marché.
Il y a beaucoup de gens de l'industrie qui participent à ces émissions. Même Pascal Nègre, je crois qu'il est jury dans une émission. Donc forcément, ça devient un référentiel de. Voilà, c'est peut-être comme ça que ça se passe dans l'industrie. Alors
les fait, gens, il ne faut pas du tout, mais pas du tout.
Ça donne une image qui est complètement faussée du
système. Ouais, alors en plus, le jury dans The Voice, c'est l'horreur, quoi. Ils sont vraiment... ils sont encore... enfin, voilà. J'en sais rien, j'ai trouvé... ils sont gentils, hein, tu vois, mais ils sont trop gentils, c'est des nounours, quoi. Et d'ailleurs, ils font 9 millions d'auditeurs, je crois, c'est un truc de ouf. Mais The Voice, la star, c'est le concept. C'est pas... D'ailleurs, la preuve, le gagnant de l'année dernière a vendu 5000 albums. Enfin... C'est juste un échec.
Les trucs les plus regardés, c'est justement les échecs.
La star, c'est pas la personne, c'est pas les chanteurs. Et malheureusement, d'ailleurs, tous les bons chanteurs qui auraient pu aller dans la Nouvelle Star sont allés dans The Voice. Je sais pas si vous avez remarqué, les mauvais sont dans la Nouvelle Star. Il n'y avait pas vraiment de grands talents. Et là, dans The Voice, il y en a des oufs. Enfin, moi, je trouve, quand je regarde. Mais bon, je le regarde vraiment comme un spectacle de divertissement, pas du tout comme un. J'apprends rien. Enfin, et je pense qu'un musicien n'apprend
rien. Et tu te reconnais pas du tout dans
ce
que ça représente et dans ça.
Mais je reconnais, je pense que personne ne se reconnaît là-dedans, dans mon milieu à moi, de la musique actuelle, des compositeurs, auteurs de mon âge. On n'est pas beaucoup, mais je pense qu'ils regardent ça comme moi, avec les yeux ébahis et avec un plateau repas devant eux. Quoi.
Voilà. Comme un divertissement du
samedi soir.
Samedi soir quoi.
Ouais. Mais d'ailleurs, c'est le cas, on est samedi soir sur TF1.
Un petit mot avant de conclure sur ton... Nouvel album, quand est-ce que ça sort ?
Eh bien écoute, là on est à 60%, 65% aujourd'hui, on est au 16e jour de studio, je pense qu'en tout il manque une dizaine de jours là encore, allez, même, on va faire 30 jours, on est au 16e jour. C'est pas mal parce qu'on fait genre une séance de 5 jours, puis je repars à la maison 5 jours, on revient 5 jours, donc ça laisse le temps de mûrir. C'est un album que j'ai pris énormément de plaisir à écrire tout seul, dans ma chambre, dans ma maison. Dans le sud où je vis maintenant et dans le sud-ouest, donc ça c'était super, c'était des moments j'allais me balader, j'écrivais une chanson, enfin c'était vraiment une année super pour ça. C'était un album très léger, alors que dans Cocoon j'étais vraiment mal, j'avais beaucoup de pression, je sais pas pourquoi. Là, pour cet album, aucune pression.
Là, le fait d'être plusieurs, déjà tu dois toujours te préoccuper de
ouais est-ce que de, mais bon, j'étais quand même tout seul pareil pour l'écrire, donc
ouais, mais t'as quand même l'identité du groupe derrière toi.
Ouais.
T'as pas mal de choses.
Enfin voilà, en tout cas, ça a été un album déjà. Je veux garder ça, on se marre trop. Je pense que t'as remarqué, c'est super. Marlon, qui réalise avec moi le disque, est super fort. Il a réalisé des disques que j'adore, donc c'est un plaisir d'être avec lui. Je pense. Moi, ce que j'aimerais dans l'absolu, c'est. Il va être fini le mois prochain, donc le disque, complètement. Aller sortir un morceau en juin. Pour le mettre, justement, on va peut-être se servir du net, enfin faire un petit teaser, j'en sais rien. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut teaser. C'est assez bizarre d'ailleurs. Celui de Timberlake était pas mal fait d'ailleurs. Et puis, on va teaser donc. Et puis, l'album sortira le 1er septembre, j'aimerais bien. Juste à la rentrée quoi.
Nickel. Ok, bah merci infiniment en tout cas d'avoir accepté de nous consacrer un peu de temps.
Merci Piouf.
De rien, je t'en prie. Voilà, on aurait aimé t'avoir avec nous pour l'émission, mais malheureusement, le planning est un peu compliqué, surtout que là, t'es En plein enregistrement, ouais. Mais t'as pris beaucoup de temps, beaucoup plus que prévu. C'est quand même c'est super sympa. Donc, on mettra, je pense, l'interview en fin d'émission. Donc, Cocoon, a priori, pas de reformation prévue.
Pas tout de suite, ouais.
Pas tout de suite.
Pour l'instant, on fait nos disques.
Ok, super. Merci encore infiniment, Marc. Ciao.
Ciao, ciao.
Too many.